Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons les paroles suivantes. Quand l'agneau ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte : Maître saint et juste, jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ? Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Ces paroles se trouvent dans Apocalypse chapitre 6 versets 9 à 11. Des paroles à la fois réjouissantes et terribles, n'est-ce pas ? Terribles parce que ces hommes et ces femmes, chrétiens, chrétiennes, ont souffert dans leur témoignage pour Jésus-Christ. Réjouissantes aussi parce que ces personnes sont aujourd'hui dans la présence du Seigneur, réclamant la justice de Dieu sur ce monde qui le rejette et qui les a tués. Être fidèle à la parole de Dieu, témoigner de notre foi par des paroles et par des actes concrets et justes devant Dieu, voilà la mission que Dieu confie à ses enfants, ceux qu'on appelle les chrétiens. Et pour nous, ce matin, parmi ceux qui sont là, qui sommes chrétiens, eh bien, dans notre mission, nous rencontrons des gens qui sont à l'écoute de notre témoignage et d'autres qui s'y opposent. Dans certains pays du monde, nos frères et sœurs en Christ sont parfois durement persécutés à cause du message de l'Évangile. Alors dans ce culte ce matin, plus particulièrement orienté vers la mission et l'annonce de l'Évangile aux nations, nous avons peut-être besoin d'être renouvelés ou encouragés dans notre mission, justement. Et le texte que nous allons lire et écouter maintenant dans l'Évangile selon Marc est une invitation à suivre Jésus-Christ et à persévérer dans sa mission. Alors je vous invite à prendre l'Évangile selon Marc et nous allons lire au chapitre 6 à partir du verset 6 et jusqu'au verset 30. Nous poursuivons ce matin une série de prédications sur l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 6, verset 6. Je commence à la deuxième partie du verset 6. Jésus parcourait les villages des alentours pour y donner son enseignement. Il appela les 12 et les envoya en mission, deux par deux, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, « Ne prenez ni provisions, ni sacs, ni argent dans votre ceinture, mettez des sandales à vos pieds, et n'emportez pas de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera, dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales, cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les oignant d'huile. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car sa réputation se répandait partout. On disait de Jésus, « C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » D'autres disaient, « C'est le prophète Élie. » D'autres encore, « C'est un prophète comme il y en avait autrefois. » De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, se disait, « C'est celui que j'ai fait décapiter, ce Jean-Baptiste, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, qu'il avait épousé. Car Jean disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Hérodiade, furieuse contre lui, cherchait à le faire mourir, mais elle n'y parvenait pas, car Hérode craignait Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint. Il le protégeait donc. Quand il l'entendait parler, il en restait fort perplexe, et pourtant il aimait l'entendre. Un jour, cependant, Hérodiade trouva une occasion favorable lors de l'anniversaire d'Hérode. Celui-ci organisa ce jour-là une grande fête à laquelle il invita les hauts dignitaires de sa cour, les officiers supérieurs et les notables de la Galilée. Au cours du banquet, la fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa, Hérode et ses invités étaient sous son charme. Le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il alla même jusqu'à lui faire ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. » Elle sortit pour prendre conseil auprès de sa mère, « Que vais-je lui demander ?»« La tête de Jean-Baptiste, » lui répondit celle-ci. Aussitôt, la jeune fille se hâta de retourner auprès du roi pour lui exprimer son vœu en ces termes. « Je veux que tout de suite, tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi en fut consterné, mais à cause de son serment et des invités, il ne voulut pas le lui refuser. Il envoya donc aussitôt un garde en lui ordonnant de rapporter la tête de Jean. Celui-ci s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat et la remit à la jeune fille, et celle-ci la donna à sa mère. Lorsque les disciples de Jean apprirent ce qui s'était passé, ils vinrent prendre son corps pour l'ensevelir dans un tombeau. À leur retour, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui rendirent compte de tout ce qu'ils avaient fait et de tout ce qu'ils avaient enseigné. Et nous lirons la suite de ce récit lors d'une prochaine prédication. J'aimerais découper ce texte, cette prédication en trois temps. Le premier, c'est qu'en mission, nous suivons Jésus. En mission, nous suivons Jésus. Deuxièmement, en comptant totalement sur Dieu. Et troisièmement, malgré les risques. En mission, nous suivons Jésus en comptant totalement sur Dieu et malgré les risques. Premier point, en mission, nous suivons Jésus. L'action de notre texte se situe toujours en Galilée, aux alentours de Nazareth, la ville où Jésus a grandi. Et nous étions restés la fois dernière sur l'incrédulité des gens par rapport à Jésus, des gens qui ont vu Jésus grandir dans cette ville, ce village. Chapitre 6, verset 5. Jésus ne put accomplir là, à Nazareth, aucun miracle, sinon pour quelques malades à qui il imposa les mains et qu'il guérit. Et Jésus fut très étonné de leur incrédulité. Jésus parcourt donc les villages autour de Nazareth, et pour la deuxième fois, semble-t-il, dans Marc, Jésus envoie ses disciples en mission. Qu'est-ce que c'est la mission des disciples ici ? Marc nous dit que Jésus leur donne autorité sur les esprits mauvais. Verset 7. Est-ce que Jésus a formé une petite équipe d'exorcistes itinérants qui va chasser des démons ? Mais remarquez que Jésus ne donne aucune consigne à ses disciples par rapport à la manière dont cette autorité sur les esprits mauvais doit se pratiquer. Nous verrons tout à l'heure que ces recommandations sont d'ailleurs plutôt d'ordre pratique. Les douze ne partent donc pas à la chasse aux démons, mais l'autorité que Jésus leur donne signifie que là où ils vont rendre témoignage de l'évangile, les esprits mauvais ne pourront pas leur résister. Comme c'était le cas lorsqu'ils se présentaient face à Jésus et qu'ils tombaient à ses genoux. On avait vu ça dans les chapitres précédents. Et c'est là le point important, me semble-t-il. Les disciples, les douze là, agissent en mission dans la continuité de leur maître. Dans la même direction. Regardons ça de plus près. Premièrement, c'est Jésus qui les envoie. Et ça, ce n'est pas nouveau. Marc, chapitre 1, verset 14. lorsque Jean-Baptiste eut été arrêté, on est toujours à parler de Jean-Baptiste, Jésus se rendit en Galilée, il y prêcha la bonne nouvelle qui vient de Dieu, il disait, donc c'est Jésus qui prêche, « Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. » Un jour, lorsqu'il longeait le lac de Galilée, il vit Simon et André son frère, il lançait un filet dans le lac car c'était des pêcheurs, et Jésus leur dit « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Déjà là, Jésus prêche et appelle des hommes à le suivre comme ses disciples. Un peu plus loin, au chapitre 3 et au verset 13, Jésus monte sur une colline et il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent à lui. Il désigna ainsi 12 hommes qu'il nomma apôtres et qui devaient être constamment avec lui. Et ensuite, chacun est nommé. Et puis, dans notre texte, au verset 7, il appela les 12 et les envoyant en mission deux par deux. C'est Jésus qui appelle, c'est Jésus qui forme ses disciples qui sont avec lui, et c'est Jésus encore qui les envoie en mission. Et à leur retour, verset 30, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait et enseigné. Jésus est vraiment celui qui dirige les opérations. Deuxièmement, Jésus lui-même n'était pas venu chasser des démons ou guérir des malades, mais annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Chapitre 1, verset 15, nous l'avons lu. Les exorcismes et les guérisons sont des signes qui accompagnent cette proclamation du message de Dieu, comme un avant-goût de ce royaume déjà à l'œuvre. Et de la même manière, les disciples, verset 12 dans notre texte, partent et proclament qu'il faut changer de vie. C'est ça leur mission. Les disciples partent proclamer qu'il faut changer de vie. Et Marc nous dit qu'ils chassaient aussi des démons et guérissaient aussi des malades. Mais ce n'est pas leur mission prioritaire. Ces signes accompagnent leur mission. Les disciples ne font donc rien d'original. Ils suivent l'exemple de leur maître. Troisièmement, Jésus donne de son autorité à ses apôtres. Ce n'est pas par leur propre autorité que les apôtres parlent ou agissent, mais c'est parce qu'ils sont les ambassadeurs du roi, ses porte-paroles. Il y a donc des liens très forts entre l'œuvre de Jésus et la mission de ses disciples. L'original, c'est Jésus. Les disciples suivent le mouvement. Alors, ils sont très actifs dans cette mission. C'est eux qui vont sur le terrain. Notez au passage qu'ils semblent avoir, entre guillemets, plus de succès que Jésus lorsqu'il était dans sa propre patrie et où il ne pouvait pas faire beaucoup de miracles. Mais donc, ils agissent, et ils agissent beaucoup, mais sous l'autorité de Jésus. C'est lui, Jésus, l'original, qui doit être mis en valeur, c'est lui le maître, et c'est lui dont les disciples témoignent. Il y a quelques semaines, vous l'avez peut-être entendu à la radio ou à la télé, un tableau du peintre italien Léonard de Vinci a été adjugé pour 450 millions de dollars lors d'une séance d'enchères à New York, pulvérisant ainsi le record du tableau le plus cher du monde. Ce tableau a été reconnu comme un tableau authentique, original, un authentique Leonardo, déjà depuis 2005. Et c'est ce caractère original qui a sans doute fait grimper sa cote. L'acheteur, qui a préféré rester anonyme, va sans doute confier ce tableau à un musée. S'il l'a chez lui puis qu'il se fait cambrioler, c'est un peu dommage. Eh bien, figurez-vous que ce tableau s'appelle Salvator Mundi, le sauveur du monde, et représente le Christ de face, la main droite levée comme ça. Quelqu'un a payé 450 millions de dollars pour avoir une peinture originale de Jésus faite par un grand peintre. Quand nous devenons chrétiens, Jésus façonne en nous son image. Nous sommes des petits Christ. C'est ça que ça veut dire chrétien, petit Christ. C'est-à-dire, non pas l'original, mais nous avons en nous l'esprit de Jésus. Et ça, ça vaut beaucoup plus que 450 millions de dollars, n'est-ce pas? Et Jésus, l'original, nous envoie, nous aussi, comme les apôtres, dans son champ de mission, en son nom, sous son autorité. Alors nous ne sommes pas nécessairement appelés à chasser des démons ou guérir des malades. Ces signes, et d'autres textes dans la Bible le montrent, n'accompagnent pas systématiquement l'annonce de l'Évangile. Et nous ne sommes pas non plus les apôtres de Jésus, les douze. Mais le message que ces apôtres proclamaient à la suite de Jésus reste le même aujourd'hui. Et en tant qu'Église, nous sommes envoyés avec le même message que Jésus et que les apôtres. En mission, nous suivons donc Jésus. Nous rendons témoignage au Christ. Deuxièmement, en mission, nous devons compter totalement sur Dieu. Comment se passe la mission des douze ici? Intéressons-nous aux consignes que Jésus leur donne. Dans leur marche, la mission c'est être en mouvement pour le royaume de Dieu, et à l'époque il n'y avait pas de RER, donc il fallait marcher. Donc dans leur marche, les douze ne pourront compter que sur leur bâton pour marcher. Ils ne doivent donc compter que sur Dieu et sur sa providence. Providence, c'est la manière dont Dieu pourvoit à nos besoins quotidiens. Ils ne doivent pas prendre de tenue de rechange, donc ils n'emmènent pas de valise. Ils n'ont pas de provisions, pas de sac. Ils n'ont pas d'argent dans la ceinture, pas de carte bleue. Même pas de smartphone, rien. Situation dans laquelle ils dépendent totalement de Dieu pour leurs besoins de tous les jours. Question, pourquoi? Est-ce que c'est pour qu'ils fassent leur preuve et qu'ils montrent que quand même Jésus ne les a pas choisis pour rien, ils savent se débrouiller? Au flambeau, les scouts évangéliques, il y a quelques années, certains groupes organisaient des jeux de piste survie pour les ados. On mettait un groupe de jeunes les yeux bandés dans une voiture et on les lâchait dans la nature avec une carte, une boussole et un peu de monnaie. Et ils devaient rejoindre le camp scout. Donc il fallait qu'ils se débrouillent. Et le but, c'était de mettre en pratique ces connaissances en orientation, etc., des techniques scout. Il fallait travailler en groupe et le défi, c'était de retrouver son chemin. Surtout avant la tombée de la nuit. Ici, les douze n'ont ni boussole, ni carte, ni argent de poche, ni GPS. Ils vont de village en village, deux par deux, proclamer un message dont ils ne sont même pas sûrs de l'accueil qu'on va lui réserver. Alors, Jésus n'organise pas ici un mini Koh-Lanta ou une opération survie pour adolescents ayant le goût du défi ou du risque. La pédagogie de Jésus est un peu plus profonde. Les disciples doivent apprendre que leur mission, c'est la mission de Dieu à travers eux, et non le résultat de leur propre plan d'action. Ils vont donc avancer de village en village, comme par étapes. Ils vont loger chez l'habitant, avec plus ou moins de succès. Parfois ça marche. Parfois non. Verset 10. Là où on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville on ne veut ni vous recevoir ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. Même quand ça marche, entre guillemets, les disciples doivent rester vigilants par rapport à leur mission, qui est d'annoncer un message de salut. Jésus dit, si dans une ville on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, être hébergé pour une ou plusieurs nuits, c'est bien. On a besoin d'un toit pour dormir et de nourriture pour reprendre des forces. Mais l'hospitalité des autres n'est pas un objectif en soi. La mission des douze n'est pas simplement une randonnée avec nuitée en bed and breakfast. Les disciples ne sont pas des touristes. Les disciples sont témoins du roi et de son royaume. Or, Jésus dit que pour entrer dans ce royaume et recevoir la faveur de Dieu, il faut passer par la repentance. L'hospitalité des gens ou leur refus sera donc, pour ces douze bonhommes, un signe des dispositions du cœur des gens qui vont les recevoir ou non. Si les gens les accueillent, c'est une chance pour le message de l'Évangile d'entrer dans une maison. Si les gens refusent, il n'y a pas de possibilité de convaincre les gens. Ce n'est pas le boulot des disciples, c'est le boulot du Saint-Esprit. Et donc, pour prendre acte de ce refus, il y avait un symbole, on secouait la poussière de son vêtement, de ses sandales. Et donc c'est ça que ça veut dire. Les disciples donc prennent acte que les gens refusent de les recevoir et d'écouter leur message. Dans notre témoignage aujourd'hui, nous aussi, nous apprenons à compter sur Dieu en toutes circonstances. Ce qui est parfois douloureux, parce qu'il nous faut renoncer aux assurances habituelles et qui sont encouragées par notre monde. Un livret d'épargne bien garni, un bon salaire, une bonne assurance ou assurance vie, une armoire pleine de vêtements et des tas d'objets utiles ou inutiles. Ces choses matérielles nous rassurent parce que nous les voyons et donc en quelque sorte nous avons un sentiment de maîtrise de la vie. Et en tant que chrétiens, nous avons à apprendre à ne pas trop nous confier dans les choses de ce monde, mais plutôt à compter sur Dieu. Il ne s'agit pas de se débarrasser, là en sortant de cette salle, de tous nos biens matériels, n'est-ce pas ? Bien qu'un tri soit parfois une bonne chose pour revenir à de bonnes priorités matérielles. Mais l'essentiel, ici, c'est de joindre l'acte à la parole. Si nous voulons donner un témoignage chrétien, nous devons montrer, d'une manière ou d'une autre, à nos voisins, à nos collègues, à nos familles, que nous dépendons de Dieu et non de ce que nous possédons. Parfois, il faudra faire des choix radicaux, parce que suivre Christ, c'est un engagement radical. Jonathan et Brenda, vous êtes pour nous un exemple de choix radical. Vous savez que Jonathan et Brenda ont vendu leurs biens matériels aux États-Unis pour pouvoir venir en France. Et donc quand ils vont rentrer dans quelques semaines, ils vont retrouver quelques affaires, mais tout le reste, ils s'en étaient séparés pour obéir à l'appel de Dieu de venir en France comme missionnaire. Suivre Jésus et répondre à son appel missionnaire, ce n'est pas que des mots. La foi implique des actions concrètes. Et lorsque Jonathan et Brenda ont tout vendu pour venir en France, cela a étonné leur entourage, y compris dans l'église. Peut-être que ce matin, l'un ou l'une d'entre nous pourrait méditer l'exemple de Jonathan et Brenda, parce que Dieu vous appelle, vous aussi, à partir en mission au loin. On parle très peu ici de la mission au loin. Mais peut-être que c'est l'occasion ce matin d'y réfléchir. Pour les jeunes, mais peut-être aussi pour des moins jeunes parmi nous. Est-ce que le Seigneur n'a pas un projet de mission pour nous ailleurs que Blanc-Mesnil, ailleurs que la France? Partir en mission, si on regarde le texte de ce matin, ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a jamais de préparation, jamais d'organisation, et qu'on doit toujours vivre au jour le jour. Mais la mission, c'est ça je crois que Jésus nous rappelle ce matin, c'est d'abord la mission de Dieu. C'est donc lui le pilote, et pas nous, et nous, nous apprenons à compter sur lui. Nous apprenons aussi les limites de notre action. Nous ne sommes pas tout puissants en tant que chrétiens, en tant que missionnaires. Certaines personnes vont accepter notre témoignage, mais d'autres vont le refuser. Soit directement, il y a des gens, on leur parle de Jésus, ils disent « Non, non, moi je ne veux pas entendre parler de Jésus. Voilà. » Et puis d'autres, c'est de manière indirecte. Ils nous trouvent sympas. Jésus est sympa. Ils pensent que c'est super pour nous d'aller à l'église. Mais ça ne change rien à leur vie. Et la troisième et dernière partie de cette prédication va développer ce point. En mission, nous suivons Jésus, premier point, en comptant totalement sur Dieu, deuxième point, troisièmement, malgré les risques. Jésus avertit dans ce texte les disciples que leur voyage ne sera pas de tout repos. La mission, c'est pas le Club Med. Jésus ne cache pas qu'il y aura de l'opposition à leur témoignage et que cette opposition peut aller jusqu'à rejeter le message et les messagers. Souvenez-vous du texte de l'Apocalypse que nous avons lu en introduction. Et entre le départ en mission des 12, verset 12, et leur retour, verset 30, Marc nous rapporte le récit de la mort de Jean-Baptiste. Question: qu'est-ce que ce récit fait là, à cet endroit? Parce qu'il est évident, vous l'avez peut-être remarqué vous-même, que cet épisode ne se situe pas dans la suite chronologique des événements. L'auteur, Marc, le dit lui-même. Le roi Hérode, verset 14, a entendu parler de la réputation grandissante de Jésus. Et Hérode se demande si ce Jésus, dont il entend parler, n'est pas une sorte de fantôme de Jean-Baptiste qu'il a fait tuer. Verset 16, je le relis. De son côté, Hérode, qui entendait tout cela, donc les rumeurs sur Jésus, se disait « C'est celui que j'ai fait décapiter, c'est Jean et il est ressuscité. » Verset 17, « En effet, Hérode lui-même, patati patata. » Donc, Marc nous raconte ce récit de la mort de Jean-Baptiste du point de vue du roi Hérode, comme un souvenir qui vient hanter sa mémoire. Ce passage est introduit par un débat autour de l'identité de Jésus. Débat que nous allons retrouver dans quelques semaines entre les disciples de Jésus au chapitre 8. Marc nous indique donc bien que nous sommes sur une bonne piste en suivant ce fil rouge de son récit. Qui est-il, ce Jésus? Le Christ, le Fils de Dieu, Marc chapitre 1, verset 1. Mais aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique comme choix personnel et comme changement de vie, si on reconnaît que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Ça, là, on est dans le cœur de l'évangile selon Marc. Revenons à Hérode. Puisque la mort de Jean-Baptiste nous est racontée du point de vue d'Hérode, c'est qu'il en est, me semble-t-il, le personnage principal avec Jean-Baptiste. On va voir pourquoi. Mais d'abord, qui est-il, ce Hérode? Vous le savez sans doute, Hérode, c'est pas un nom de famille, c'est un nom de dynastie, comme Pharaon par exemple. Les Pharaons, les Hérodes. Il y avait déjà un Hérode qui régnait lorsque Jésus est né. Il s'appelait Hérode le Grand. Et ce Hérode le Grand régnait sur toute la Palestine entre 37 et 4 avant Jésus-Christ. Et donc, Jésus est probablement né vers l'an 6 avant lui-même. L'an 0 n'existe pas. Hein. Donc, d'après les historiens, on pense que la naissance de Jésus se situe à peu près en moins 6, puisque le roi Hérode est mort en moins 4, et que Jésus est né sous son règne. Donc, à la mort de Hérode le Grand, Hérode père, son royaume palestinien a été divisé en provinces entre ses fils. Et le Hérode de notre texte, qu'on trouve parfois appelé Hérode le Tétrarque ou Hérode Antipas, gouvernait les provinces de la Galilée et de la Pérée. Et lui, il a gouverné de moins 4, donc avant Jésus-Christ, jusqu'à 39 après Jésus-Christ. C'est ce même Hérode, dans notre texte de ce matin, qu'on retrouve lors du procès de Jésus et qui cherche à écouter, entendre Jésus comme il aimait entendre Jean-Baptiste, notre texte nous le dit. Et c'est ce Hérode à qui Jésus n'a rien dit. Peut-être parce que Jean-Baptiste lui avait déjà dit ce qu'il avait besoin d'entendre. Ce Hérode le Tétrarque ou Hérode Antipas, Jésus le qualifiait de renard dans l'évangile selon Luc, ce qui ne veut pas dire rusé, mais qui veut dire sale type. Dans notre texte, Marc l'appelle le roi Hérode. Verset 14. Or, Hérode n'est pas roi. Son père était roi de la Palestine, mais lui n'est que gouverneur. Peut-être il y a là une petite ironie de la part de Marc, parce que justement, Hérode aimerait bien être le roi. Et c'est ce pseudo-roi qui promet, par serment, la moitié de son royaume à la jolie fille d'Hérodiade qui lui a plu dans sa danse. Promesse qu'il n'aurait d'ailleurs jamais pu tenir puisque sa gouvernance était soumise à l'Empire romain. Donc il ne pouvait pas décider comme ça sur un coup de tête comment il allait distribuer son royaume. Je vous rappelle au passage ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 5 sur les serments. Moi je vous dis, ne faites pas de serments. On comprend ici pourquoi. Ce Hérode qui se prend pour un roi, donc, hein, Jean-Baptiste lui adresse un message, verset 18, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Pourquoi Jean lui dit ça? Parce que Hérode avait renvoyé sa propre femme pour épouser la femme de son frère Philippe, Hérode Philippe, un autre Hérode, qui vivait à Rome. Donc, il y avait des problèmes de couple dans le couple de son frère et de sa belle-sœur. Son frère vivait à Rome. La belle-sœur était, entre guillemets, libre. Il l'a récupérée. Au verset 18, Marc utilise le temps de l'imparfait pour nous dire « Jean-Baptiste » disait à Hérode, tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. Comme si il avait eu l'occasion de lui dire un certain nombre de fois, et pas juste une fois comme ça en passant, mais que c'est un message qu'il répétait aux oreilles du roi. Le roi le convoquait certainement à plusieurs reprises pour l'entendre, raconte-moi des choses sur Dieu, etc. Et Jean-Baptiste lui disait la même chose, tu n'as pas le droit d'avoir la femme de ton frère. Tu pèches devant Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Change de vie. Par certains côtés, Hérode écoutait Jean. En tout cas, il aimait l'entendre. Mais pas au point de changer ce qui devait être changé dans sa vie. Il considérait Jean-Baptiste comme un homme juste et saint, nous dit Marc. Mais ça n'allait pas plus loin. Maintenant, je reviens à la question de tout à l'heure et je terminerai par là. Pourquoi ce récit de la mort de Jean-Baptiste entre l'envoi des 12 en mission et leur retour? Et pourquoi ce zoom sur ces deux personnages, Jean-Baptiste et Hérode? Réponse. Écoutez bien. Dans cet épisode, Jean-Baptiste apparaît comme l'exemple du disciple fidèle, du témoin persévérant, de l'homme qui accomplit jusqu'au bout la mission que Dieu lui a confiée. De l'autre côté, Hérode, c'est l'exemple de l'homme qui vit sans Dieu, qui veut ou qui croit être le roi, dans son royaume, mais qui en réalité ne fait que gouverner grâce à une autorité qui lui a été prêtée. Hérode, c'est le type qui ne veut pas déplaire à son entourage et qui prend de mauvaises décisions. Or, que dit Jean-Baptiste ? Que disent les douze ? Que prêchent les douze en mission ? Ils disent, écoutez bien, que pour être sauvés, il faut que nous renoncions à notre royauté et accepter la royauté de Christ sur notre vie. Il faut que nous abandonnions notre soi-disant royaume pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour cela, il faut accepter l'autorité de Dieu, qui dit par exemple dans la bouche de Jean-Baptiste, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Et il nous faut changer de vie en conséquence, même si cela doit déplaire à notre entourage. Ce qu'Hérode n'a pas fait. Et nous ? Dans quel domaine résistons-nous à nous repentir parce que nous tenons à notre couronne ? Essayons plutôt de suivre l'exemple de Jean-Baptiste. Son témoignage est resté le même, quelles que soient les circonstances. Son message et son intégrité ont, c'est vrai, nourri la haine de ses ennemis. Hérodiade a finalement trouvé l'occasion de faire taire ce témoin gênant. Mais nous savons que Jésus aussi est passé par là, jusqu'à la croix. Et à la croix, la haine des hommes contre Dieu semblait triompher. Hérode s'était même réconcilié avec Pilate. Voilà le choix qu'il a fait. C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. Hein ? Il a choisi Pilate plutôt que Jésus. Les magouilles politiques plutôt que la vérité. Mais la mort de Jésus, c'est finalement le moyen par lequel nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu et y rester, y demeurer par la foi. Alors, tenons ferme cette semaine dans notre mission, suivons Jésus en comptant totalement sur Dieu malgré les risques. Prions. Seigneur, nous voulons simplement te dire merci pour la grâce que tu nous offres en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas, nous ne pouvions pas mériter ta faveur et tu nous la donnes en nous offrant la vie de ton Fils. Merci Seigneur. Aide-nous à l'accepter, aide-nous à vivre en conséquence de cet amour immense que tu as eu pour nous. Tu nous pardonnes, tu nous aimes et tu nous appelles à ton service, ici en France ou ailleurs dans le monde. Nous te bénissons pour le témoignage de Jonathan et Brenda parmi nous et Steven pendant ces 2 années et nous te les confions pour que tu bénisses la suite de leur mission, que tu veilles sur leur retour aux États-Unis. Que tu les encourages dans leur foi et qu'ils soient aussi une source d'encouragement pour leur Église là-bas. Aide-nous à faire aussi les bons choix dans notre vie cette semaine pour que tout soit fait pour ta gloire. Et c'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.